Père céleste, Dieu de gloire, on veut se tourner vers toi, nous adresser à toi qui règne dans ta majesté, toi qui es assis sur ton trône, et on veut recourir par le nom de Jésus-Christ à la grâce, à cette force d'en haut par laquelle les apôtres ont prêché l'évangile, dans lequel les anges désirent plonger leur regard, et on demande que tu nous assistes pour que nous puissions encore plonger nos regards dans ce glorieux évangile que tu nous as laissé et que tu veux que tes enfants vivent en plénitude encore aujourd'hui parce que ton Saint-Esprit est le même, parce que ton Fils bien-aimé, crucifié et ressuscité pour nous, est le même hier et il est le même aujourd'hui. Saint-Esprit, nous invoquons ta grâce au milieu de nous, que tu guides ces instants, que tu puisses vraiment, Père Céleste, me donner ta grâce, parce que par moi-même je ne peux grand-chose, et que tu puisses donner ta grâce à tous ceux qui écoutent ta parole, que nous puissions être comme Israël, de ceux qui entendent, comme ce reste d'Israël qui a pu entendre, Seigneur, et non pas comme la masse qui s'est perdue, qui a péri dans le désert. Fais de nous ces Caleb et fais de nous ces Josué. Ô Seigneur, fais de nous ces Josué en ces instants qui demeurent dans le tabernacle, qui demeurent dans ta présence, qui entendent les paroles de Dieu pour les mettre en pratique et que tout réussit à ce genre d'hommes et de femmes parce que ta parole est entendue, elle est mise en pratique et elle est la vie. Tu nous veux la vie, Père. Encourage-nous ce matin, par cette prédication, que nous puissions avoir la vie, vivre cette vie. Ô Père Céleste, fais ces choses dans nos cœurs. Encourage-nous, fortifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, on continue cette série de prédications sur une vie chrétienne authentique. Cet évangile glorieux, le Seigneur, il ne l'a pas donné, il ne l'a pas préparé depuis des siècles, il ne l'a pas accompli pour qu'on soit des êtres à mi-déchus, pour qu'on soit des êtres tièdes, pour qu'on soit des êtres encore esclaves, prisonniers. Il l'a préparé, il l'a accompli et il veut le prêcher aujourd'hui pour qu'on le vive en plénitude, libre, heureux, un peuple heureux qui marche à la face de sa clarté naissance, de son retour qui vient. Un peuple qui va être prêt à recevoir son Messie sans crainte, rempli de sa présence comme le plus beau jour de sa vie. Oui, les prophètes disent que ce jour est un jour terrible pour celui qui est rempli de la présence de Jésus. C'est le jour le plus beau, le plus glorieux, frères et sœurs. Alors, j'aimerais très rapidement, dans un premier temps, dire, parce que cette série de prédications, il y a peut-être, c'est vrai, des paroles qui sont dures, des paroles qui sont radicales, des paroles qui sont fortes. Et c'est vrai que dans l'Église aujourd'hui, eh bien, la parole de Christ, cette parole vivante, efficace, plus tranchante qu'aucun glaive à deux tranchants, celle qui vient mettre la clarté et la lumière, séparée dans le cœur du croyant, la jointure et les moelles, l'âme et l'esprit, pour qu'il puisse voir clair et ne pas s'endormir du sommeil de la mort, elle est très peu prêchée. Elle est très peu prêchée. Les apôtres, nous dit Pierre, ils prêchaient par le Saint-Esprit venu du ciel, vous voyez. Ils prêchaient par cette puissance. Ils invoquaient Dieu pour être remplis du Saint-Esprit après même la Pentecôte. Non seulement avant la Pentecôte, mais après même la Pentecôte, jusqu'à ce que les lieux tremblent et qu'ils aient l'assurance de prêcher cette parole dans une telle puissance que oui, elle fasse des signes et des miracles, mais qu'elle perce le cœur des gens pour qu'une foule de sacrificateurs, comme nous le dit les Actes des Apôtres, puissent venir à la foi. Vous savez, quand Paul a prêché à la Pentecôte, ces 3000 personnes, elles ne faisaient pas une simple profession de foi qu'elles croyaient dans le Seigneur. Elles conjuraient, après avoir été conjurées de se sauver de cette génération perverse, elles conjuraient la peau de dire « Comment peut-on faire pour être sauvé ?» Et elles se repentaient vraiment. Et quand elles rentraient dans cette eau, c'est tout leur passé, tout leur être de péché, toute leur ancienne vie, avec tous ces leurres, avec toutes ces convoitises, avec toute sa tiédeur, cœur sa rébellion contre Dieu, qui restait dans l'eau, et c'est des êtres ressuscités qui se relevaient et qui vendaient tout ce qu'ils avaient, qui se mettaient un seul cœur, une seule âme à chercher Dieu continuellement dans le temple et qui servaient le Seigneur. Quand Paul dit « Servez le Seigneur » dans Romains 12, « Soyez fervents, rejetez toute paresse », c'est ce que vivaient ces apôtres. Je peux juste vous donner cette petite série de versets perçants que donne l'apôtre dans Romains 12. C'est ce que vivaient ces chrétiens, c'est ce que l'on est appelé à vivre aujourd'hui. Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ils avaient tous cet esprit-là. Et si on n'a pas cet esprit-là dans l'Église, alors on dort. Et quand on prêche la parole telle qu'elle est, la parole de Christ, la parole de foi, ça nous paraît dur, ça nous paraît peut-être des fois même mystique, alors qu'il n'en est rien. Comme je le disais la dernière fois, je ne suis pas un jeune en quête d'absolu qui veut avoir des frissons. Je veux avoir l'audace de ne pas falsifier, de ne pas altérer la parole de Dieu. Je suis qu'un vase de terre, sans puissance, sans rien, par moi-même. Mais je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, de la puissance de Dieu, pour sauver celui qui croit. Mais pour que celui qui croit soit sauvé d'un évangile qui le sort de l'Égypte, qui lui fait passer le désert avec cet esprit de Caleb et Josué, pour rentrer dans cet esprit de Josué, dans la terre promise, il faut prêcher la vérité, frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu dont on a besoin pour sortir de nos péchés. Personne sinon Jésus aurait pu dire « Sors à Lazare et déliez-le et laissez-le aller ». On a besoin de cette parole même du Seigneur. Et cette parole, elle est forte. Pourquoi ? Parce que si on prêche par la chair, ou si on prêche par l'étude, quand bien même il faut étudier, c'est même un grand mal de l'Église aujourd'hui de se fier tant à ses sentiments et non pas à l'Écriture, non pas à la saine doctrine qu'on trouve dans l'Écriture. On vit par nos sentiments et les sentiments souvent et ça nous empêche de vivre vraiment par la foi, vous voyez. Justement, je ne vous parle pas de mysticisme, mais d'une vraie mise en pratique de la parole pour avoir la vraie vie de Dieu. Pour être des gens qui concrètement, qu'ils soient missionnaires ou qu'ils travaillent, puissent élever leur famille, leurs enfants, comme des vrais Christ, frères et sœurs, comme des vrais amis de Jésus, comme des vrais frères et sœurs de Jésus, des gens qui vont montrer que Jésus est vivant. Et ce n'est pas de l'émotion ça, c'est de la vérité par la puissance de Dieu qui a besoin d'être restaurée dans l'Église. On a fourvoyé le Saint-Esprit de Dieu. On en a fait une idole, une sorte de, parfois même dans certaines églises, de sentiments à moitié occultes ou charnels, vous voyez. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de sainteté qui met à part des hommes et des femmes pour les planter dans une vie authentiquement nouvelle, la vie de Jésus-Christ. On a besoin de voir clair, frères et sœurs, pour que Jésus demeure en nous. Et pour ça, on a besoin de prier, c'est essentiel. On continue ce partage aujourd'hui et j'aimerais vous dire que si certains, en écoutant ces choses, certains qui les écouteront peut-être par la suite, ont des combats au travers de ces prédications, c'est bon signe, c'est normal, c'est juste. Comment un être charnel vendu au péché, comme nous dit David, peut se trouver tranquille et paisible devant la parole de Dieu? C'est normal qu'elle remette en question, qu'elle nous travaille, et même profondément. Et même profondément. Et s'il y a des choses dures à entendre, pour celui qui est prêt à se remettre en question, c'est le départ de quelque chose de merveilleux. C'est le départ de la vérité dans vos vies. C'est le départ d'une vraie connaissance de Dieu, du véritable, qui est le chemin, la vérité et la vie. Confrontons notre vie à la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Si la parole de Dieu est dure, si ses paroles sont dures, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime et ne veut pas qu'on soit condamnés avec le monde. Et on a un Père qui nous donne peut-être des paroles dures. Parce que quiconque lit vraiment la Bible, d'une couverture à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, sans souligner que les paroles qui le touchent et qui sont positives, mais en voyant Dieu tel qu'il est dans sa parole, Celui qui connaît Dieu au travers de toute l'Écriture sainte sait que Dieu est dur, Dieu est clair, Dieu est vrai. Mais vous savez, moi j'ai confiance en un Dieu comme ça. J'ai confiance en quelqu'un qui préfère me dire la vérité parce qu'il m'aime. Et il ne veut pas que je marche en vain. Il est vrai avec moi. Moi, j'ai confiance en un Dieu comme ça, vous voyez. Je préfère un Dieu juste, un Dieu véritable, qui me dit les choses en vérité, quand bien même elles sont dures à entendre. Au moins, je sais que si je suis vrai et que je marche, je n'ai pas de soucis à me faire, vous voyez. Est-ce qu'il y en a qui préféraient un Dieu qui est que amour ? Oui, Dieu est amour. Mais avant de bien comprendre son amour, on a besoin de comprendre sa sainteté. Oui, il est grâce, mais il est juste, et parfaitement juste. Comme dit Jésus, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Jusqu'à ce que tu aies été corrigé, jusqu'à l'ultime rébellion. Dieu est parfaitement juste et c'est quand on comprend sa justice qu'on comprend sa grâce pour marcher dans cette justice, étant gracié de Dieu, oui. Alors Dieu nous donne sa parole pour qu'on se laisse reprendre, on se laisse juger, afin de ne pas être condamné avec le monde, mais pour sauver. Dans tout le cœur de Dieu, il n'y a qu'un désir, c'est de nous sauver. Et il nous donne cette parole pour qu'on puisse la serrer contre notre cœur, afin de ne pas pécher, pour avoir la vie. Son commandement, on va le lire, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, et c'est rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Vous pouvez prendre avec moi Jean chapitre 12. Pour terminer cette introduction, on va lire cette parole. Se laisser juger, se laisser corriger par la parole de Dieu. C'est mettre à mal, c'est consumer tout le péché, toute la tristesse, toute la déprime, tous les maux qu'on pourrait avoir. Revenons à la source, revenons à notre Dieu et il nous guérira, frères et sœurs. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Sa parole, elle est lumière, frères et sœurs. Alors bien sûr, quand elle éclaire nos ténèbres, ça fait mal. On voit toutes nos scories. C'est comme, vous savez, on a une plaie. La plaie que nous avons, c'est notre nature de péché. On est en train toujours de parler de ça. On est une plaie ambulante. Il faut se voir comme une plaie purulente, c'est ce qu'on est. On est vendu au péché. Si on veut vraiment guérir une plaie, on ne met pas simplement un peu de pommade et un pansement. On est obligé de la gratter. De mettre la lumière sur tout son mal, son pu, la désinfecter, alors on la cicatrisera et alors on pourra de nouveau marcher, jouer, utiliser nos mains, faire tout ce que nous avons à faire. La parole, elle est lumière. Pourquoi on n'aimerait pas la lumière? Ceux qui auraient des combats au travers de ces prêches, pourquoi n'aimeriez-vous pas la lumière? Vous savez, gardez vos doigts sur Jean 12, c'est ce que dit Jésus, il dit... Après ce verset si bien connu de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, cette lumière de Dieu qui nous cause des combats, c'est parce qu'on est pécheur, c'est tout. C'est tout, c'est si simple que ça. Si on a des combats, si on a des problèmes, si on se dit que c'est ceci, c'est cela, laissons-nous scruter, c'est la lumière de Dieu. Et ne nous laissons pas juger. Laissons-nous juger par cette parole pour avoir la vie, mais ne nous laissons pas condamner par cette parole. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Bien sûr, quand tes œuvres sont dévoilées, quand par la prédication, ça creuse un peu plus profond que simplement je suis pécheur et puis je demande pardon, je suis sauvé, et puis tant mieux, puis je continue finalement presque à vivre comme avant ou simplement que je me sens mieux. Quand on va creuser au fond de toi, qu'on va voir la rébellion, qu'on va voir ces couches et ces couches de ce moi subtil, de cette chair rebelle à Dieu, alors là... On n'a pas envie de mettre tout en lumière, de vraiment fonder notre vie sur la parole de Dieu. On a envie que ça se passe peut-être comme on le souhaiterait. Non, mais on ne veut pas. Vraiment, on voit qu'on a quelque chose en nous qui ne veut pas réellement Dieu, qui n'aime pas réellement cette loi de Dieu pour la mettre en pratique, qui ne veut rien savoir sinon Jésus-Christ. Et on sent toute cette force de l'ego en nous, cette loi du péché. Et pourtant, c'est la lumière. C'est la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui veut agir selon la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors Jean 12, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Il vient dans sa lumière pour qu'on ne demeure pas dans les ténèbres. On a besoin de sa lumière pour commencer à voir clair qu'on est dans les ténèbres. À voir clair qu'est-ce que notre nature de péché, qu'est-ce que notre vie nouvelle en Christ pour y demeurer. Et c'est chaque matin, ce n'est pas une prédication, c'est chaque jour. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, si tu ne veux pas garder ces paroles que tu entends, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Moi, je ne prêche pas pour condamner, mais pour sauver. Si on veut dire que ces paroles sont trop fortes, si on ne veut pas de ce glorieux évangile de Dieu, que chacun soit mis en face de la parole de Dieu pour lui-même. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé pour sauver, je rajoute. C'est le Père qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Et j'aimerais vous prêcher ce matin, frères et sœurs, que cette vie éternelle, cette vie nouvelle, cette vraie vie de racheté, cette vie authentiquement chrétienne, elle est possible. Cette vie éternelle, c'est une réalité. Et c'est ce fait de vivre libre, rempli du Saint-Esprit, dans une vraie nouveauté de vie, posant les fondements pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, des Écritures, aussi exigeants soient-ils, c'est possible. C'est possible. Ce n'est que parce qu'on est tiède, parce qu'on est encore rempli de nous-mêmes, de la pensée de l'homme, de la paresse de notre génération, que ça ne nous paraît pas possible. De l'apostasie de l'Église, des séductions. Je ne suis pas en train de juger les Églises à tout azimut, je dis ce que dit la parole de Dieu. Dans les derniers temps, il y aura une apostasie, il y aura une tiédeur. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'on n'arrivera plus à entendre, on détournera notre oreille de la vérité parce qu'on voudra entendre des choses qui nous sont agréables. On sera devenu une génération, et c'est le cas, quasiment incapable de vivre la parole de Dieu. Quasiment incapable de vivre la parole de Dieu. Alors lisez les prophètes. Lisez ce Dieu de l'Alliance pour voir quel est le sort de ces gens incapables de se circoncire pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas que je suis en train de parler de qu'il n'y a qu'une élite qui sera sauvée. La Bible nous parle d'un reste et c'est ce reste envers qui Dieu est fidèle et vrai et puissance de salut. On mépriserait la parole de Dieu dans laquelle les anges plongent leurs regards, on mépriserait Dieu lui-même. On n'aimerait pas Dieu, on n'aimerait pas ses commandements, on n'aimerait pas mettre sa parole en pratique, vivre selon lui, et puis trouver des choses meilleures, mais par contre on aimerait être avec lui dans le ciel. Vous voyez, là il y a une contradiction qu'il faut comprendre dès ici-bas. Ici-bas, vous savez, le seul sens de notre vie, c'est un tremplin pour la gloire ou pour l'enfer. C'est ici-bas qu'il faut se décider. On ne peut pas vouloir Dieu et puis ne pas vouloir sa parole. C'est un non-sens. Mais on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre profondément en nous-mêmes ce non-sens. Ce non-sens que parfois, malheureusement, en tant que chrétien, on incarne encore beaucoup trop. Alors, frères et sœurs, pour ça, j'aimerais prendre avec vous Deutéronome chapitre 30 pour vous parler de ce cœur de Dieu. Pour vous dire ô combien c'est possible. C'est le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est possible de vivre cette vie. Dieu n'a pas donné tout ce qu'il a donné pour que ce soit impossible. C'est possible. Deutéronome 30, et on lit à partir du verset 11. Si vous saviez, bien-aimés, ô combien Dieu nous veut cette vie. Combien Dieu nous veut cette vie. Combien il veut qu'on soit ses vrais enfants. On est tellement rempli de notre chair, de nos pensées idolâtres et impures. On ne se rend pas compte, il n'y a que quand on est, c'est peut-être quand on est rempli de l'esprit. C'est plus facile d'être derrière la chair en prêchant que l'après-midi à marcher avec tout le reste. Mais c'est la vérité. On est encore tant rempli de nous-mêmes, on ne se rend pas compte du cœur de Dieu. Ou combien il veut faire de nous ses enfants. Ou combien sa parole, elle est lumière, elle est bonne, elle est vie. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors vous voyez, si vous êtes découragé, je vais dire quelques mots si on a le temps sur les combats. Si vous avez des pensées, arrêtez de laisser le diable murmurer à vos pensées. Arrêtez de laisser le diable qui est un lion rugissant vous décourager. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et laissez-vous engendrer par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne substance en vous de vie éternelle. Du fait que c'est possible, qu'elle devienne vérité dans vos vies. Le diable, Jésus dit, il est menteur dès le commencement, vous voyez. Et il leurre ceux qui le découragent. Mais il leurre aussi tous les pharisiens et tous les chrétiens qui pensent avoir Abraham pour père. Alors que Jésus, lisait l'évangile de Jean, Jésus est si dur et si clair parce qu'il est vrai et qu'il veut les sauver, alors que bon nombre ont encore pour père le diable. Le diable, c'est le prince de ce monde, c'est le prince de la chair, c'est le prince du mensonge. Et Dieu est la vérité. Alors, comme le dit Jean-Baptiste, ne disons pas trop vite, ne prétendons pas trop vite avoir Abraham pour père, parce que de ces pierres-là, il peut faire des enfants Abraham. Soyons ces pierres qui se laissent briser par Dieu, d'où le miel de Christ va sortir, l'eau de Christ va sortir. Tout est possible à celui qui croit. Or, on prend ce verset tant de fois pour parler de miracles de guérison. Avant de parler de miracles et de guérison, Dieu dit tout est possible à celui qui croit lorsqu'il parle du salut de nos âmes. Quand les apôtres lui disent, mais alors, qui c'est qui peut être sauvé? Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors, cesse de te laisser avoir par ces raisonnements. Vous savez, 2 Corinthiens 10, vous pourrez lire, c'est la base de la maturité chrétienne. D'amener toute pensée captive à Jésus-Christ, de renverser ces forteresses, vous voyez, ces forteresses de pensée. Dieu, s'il a fait ce salut, s'il a donné sa parole, c'est parce qu'il est possible que tu la vives. Alors ne dis pas comme ces Israélites qui ont péri dans le désert. Oh là là, qu'un autre parle, c'est trop dur pour moi. Mets-toi en marche et tu verras que c'est possible. Mets-toi à l'œuvre comme on en a parlé. Tu verras que c'est possible. Et je veux t'encourager ce matin à te dire, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais pour ça, il faut prier. Il faut te mettre à l'œuvre dans la prière. Il faut lire la parole. Il faut en faire ta vie. Il faut que la parole soit ta pensée. Tu vas voir alors de plus en plus quand c'est toi qui penses ou quand c'est la parole qui pense en toi. Et la parole, elle est vie éternelle. Elle est ton salut. Ne cours pas le risque, ne fais pas cette folie de marcher selon ton propre conseil. Médite cette Torah jour et nuit. Tu seras un arbre planté au bord d'un courant d'eau. La sécheresse, les combats, n'importe quoi pourra venir si c'est la parole de Dieu qui forme Christ en toi, tu marcheras selon elle jusqu'au bout, jusqu'au jour glorieux où le Seigneur viendra te chercher pour que tu sois délivré pleinement et pour toujours avec lui. Ce commandement alors que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Si tu te dis ça, c'est un mensonge du diable. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Comment toutes ces paroles, je pourrais les mettre en pratique? Oh, est-ce que c'est pas trop fort? Ne dis pas ça. C'est ma parole. C'est ma parole. Et si je suis Dieu, je suis vrai. Si je connais le nombre de tes cheveux, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Lisez ce fameux psaume 139. Avant même que tu parles, je sais déjà ce que tu vas dire. Est-ce que j'aurais donné une parole pour qu'elle soit pas, elle ne puisse pas être même mise en pratique, pour qu'on ne puisse pas la vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Ce Dieu avec qui on veut passer notre ciel, qui serait menteur, qui serait trop dur, qui serait pas juste. Il faut qu'on descende sur nos genoux pour pouvoir se relever dans sa lumière.
il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique?
Comme je le disais, on peut se rassurer en regardant les gens, mais qui c'est qui vit cette plénitude de Jésus-Christ? Qui c'est qui vit cette vie nouvelle? Et qui c'est qui lit la parole de Dieu et qui la médite nuit et jour et qui ne s'arrête pas au conseil des méchants? C'est le premier psaume, vous voyez. C'est le premier psaume et il pose la base et il veut tout dire. Il y a ceux qui vont aller dans la parole pour devenir cet arbre, ce Messie vivant planté au bord des eaux. Et il y a ceux qui s'arrêtent au conseil des méchants et qui vont selon leurs pensées. Et eux, ce seront les méchants jugés au dernier jour. Et vous avez dans les psaumes, tout au long des psaumes, vous avez ce combat du juste et du méchant. Et pourtant, on serait entre les deux et on serait chrétien, parfois même évangéliste. Oh, que sais-je ? Vous savez, il y a deux chemins. Le Seigneur va nous en parler. Il y a deux chemins. Soyons ces justes. C'est tout ce que Dieu a dans son cœur. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Elle est tout près de toi. Comme l'a lu notre frère tout à l'heure, psaume 81, verset 9 et suivant. C'est tout près de toi. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Mets-toi à l'œuvre, tes ennemis vont être décimés. Et en un instant, je pourrai le faire, te dit le Seigneur. Mais il faut que tu arrêtes de réfléchir, de te laisser aller à tes raisonnements, de te laisser aller à tes sentiments, et que tu marches jour après jour. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, il n'y a que deux choses. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Pourquoi ? Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est tellement de la folie ! On demande bénédiction, bénédiction pour nous à Dieu, alors que tout ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui sont ces pierres qui se laissent briser pour que l'eau du Messie coule en eux, pour qu'ils s'ouvrent à la vie. On est des gens qui veulent être remplis de l'amour de Dieu, remplis des bénédictions, alors que Dieu nous dit « Sors, ouvre-toi à la plénitude de mon amour ». On veut des bénédictions et on ne connaît pas la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas Dieu, parce qu'on passe pas assez du temps avec lui, dans sa parole et dans la prière. Mais si vous saviez ce qu'il y a dans le cœur de notre Père, ô combien il veut des enfants libérés, des enfants libres. On est ses petits-enfants, comme on va le voir, comme le disait l'apôtre Jean. On est ses petits-enfants, il nous chérit, il nous veut la vie. Mais on ne le cherche pas. On n'est pas rempli du Saint-Esprit parce qu'on ne le cherche pas. Jésus a dit « Demandez !» Jésus a dit « Frappez !» Jésus a dit « Cherchez !» Et si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ô combien plus le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Mais est-ce que tu demandes? Est-ce que tu tapes? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as conscience que tu es complètement dépendant de Dieu? Si tu as pris conscience de ta nature de péché, des profondeurs de la nature de ton péché, avec cette prise de conscience, cette conviction de péché, tu vas te rendre compte que pour vraiment te repentir en vérité et marcher dans cette vie nouvelle par la foi, tu as absolument besoin de Dieu, absolument besoin de Jésus, absolument besoin de la puissance du Saint-Esprit. Aussi par ses paroles en ces instants même, tu pouvais m'entendre, entendre au fond de toi pour savoir Christ, savoir ô combien tu as besoin de lui, d'être dépendant de lui. Pas à 90%, à 100%. Il suffit d'un instant où on perd sa présence et on peut tout à coup devenir le pire des hommes, le pire des femmes. On peut être dans la puissance du Saint-Esprit et l'heure d'après, nous trouver dans l'ignorance, étranger à la vie de Dieu et dans le péché, dans nos pensées. On doit savoir au plus profond de nous-mêmes qu'on a besoin, un besoin absolu du Seigneur Jésus. Un besoin absolu de sa présence. Un besoin absolu de son Saint-Esprit. Qui serais-tu, homme, femme, pour croire marcher avec Dieu sans lui? Si Dieu, comme j'avais pu le prêcher, la première fois veut faire sa demeure en nous, veut être ce vrai bon berger en nous, c'est parce qu'on en a absolument besoin. Absolument besoin. On a trop d'adversaires dans ce monde, à l'extérieur de nous-mêmes. On a trop d'adversaires en nous par notre vieil homme qui s'est fait façonner par ce monde inique de péché gouverné par Satan. On a trop de choses en nous pour ne pas être absolument dépendant de Jésus à chaque instant. Quiconque est vrai le confesse. Moi-même qui prêche, aussitôt après avoir prêché, est-ce que je vais me détendre et souffler parce que quand on prêche, c'est pesant pour notre nature de péché? Ou est-ce que je vais me mettre à genoux pour demander à sa présence de me faire cette grâce d'être dépendant de lui jusqu'à la fin du jour? Est-ce que je vais me coucher, comme je disais à un enfant dernièrement, en me couchant, en pensant déjà au lendemain matin, ou au moment où je vais me réveiller pendant la nuit, pour savoir que je suis appelé à être dépendant de ce Dieu et que je veux me tourner vers lui? Est-ce que je vais me coucher ce soir en pensant que demain, je serai à genoux pour l'adorer? Vous savez, de vivre une vie régénérée, c'est la vérité. Il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien de plus dur que de vivre dans le Saint-Esprit. Alors on ne peut pas vivre comme ça, vous voyez, à moitié à l'aveuglette. On ne peut que vivre en plénitude. Pour ça que Jésus dit, soit t'es feu, soit t'es mort. Ce n'est pas Jésus qui dit ça, c'est un homme de réveil. Jésus dit, soit t'es froid, soit t'es bouillant. On ne peut pas vivre tiède, ce n'est pas possible. J'en parlais dernièrement avec mon frère, et je lui disais, mais avec des pleurs dans mon cœur, mais c'est tellement dur de vivre dans le Saint-Esprit. Comment les gens vont faire? Il n'y a que Dieu qui peut réveiller l'Église. Il n'y a que Dieu qui peut réveiller l'Église en lui manifestant sa sainteté, en lui manifestant son ciel, sa gloire, comme on partagera dans un dernier volet, je l'espère, la gloire de Dieu. On est fait pour sa gloire. On est fait pour le ciel. Si on n'a pas une vision de Jésus, la vraie vision de l'Écriture, une vision de la gloire, une vision de l'éternité, on s'endort dans ce monde. On s'endort dans notre chair. Et cette vision de Jésus, cette vision de la gloire, cette conscience de notre péché, c'est chaque jour, c'est chaque matin qu'on doit l'avoir, et dans la puissance et la ferveur du Saint-Esprit. Sinon, on est condamné à retomber dans la chair. C'est un fait établi, frères et sœurs, un cri de mon cœur et de tout prédicateur digne de ce nom, si je puis l'être. On a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil. On a besoin que Dieu manifeste ne serait-ce qu'une goutte de ce qu'il est, pour nous réveiller. Et pour ça, on a besoin de le chercher. On a besoin de le chercher, encore, de passer du temps dans la prière. Vous savez, le psaume 24, frères et sœurs, dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Vous voyez ce que c'est la bénédiction? C'est la plénitude du salut de Dieu. Et il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. J'ai déjà prêché ça, je le prêcherai encore. En hébreu, on dit, c'est le sort de ceux qui se rassemblent pour chercher l'Éternel, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. On a besoin de prier. On a besoin de chercher sa face pour jouir de la bénédiction des bénédictions. Et de cette bénédiction, ô soyez sans crainte, toutes les autres bénédictions couleront. Tout coulera. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans ses voies, qu'on observe ses commandements, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, tu peux d'abord toi commencer à être ton propre Dieu, et c'est souvent le cas. Où il y a le Dieu sommeil, où il y a le Dieu nourriture. Ce monde y fait de nous des véritables animaux. du pain et des jeux, voilà ce que disaient les Romains pour s'asservir le peuple. Ô homme, ne te rends-tu pas compte que tu es asservi, complètement asservi dans la chair? Tout est tourné vers la chair, tout est tourné vers l'évasion, des jeux, on veut se distraire. On va au théâtre, on va au cinéma, on regarde la télé, on regarde des films, on va faire du sport, on va jouer à ceci. Il y a tout pour faire de nous des êtres charnels qui n'ont pas la vision de Dieu dans ce monde. Alors ne croyez pas que vous pourrez marcher comme Jésus lui-même a marché, sans chercher sa face, sans passer du temps conséquent dans la prière et dans la parole, sans être rempli de son esprit. Ton cœur se détournera bien vite. Quand bien même tu peux jeûner, chercher sa face, si ça ne continue pas comme un élan qui ne s'arrêtera jamais, notre cœur, il va bien vite se détourner à droite et à gauche. On a besoin d'être en lui, chaque soir, chaque matin, chaque midi, à chaque instant. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Le Seigneur est vrai parce qu'il nous aime. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. T'attacher à lui! Car de cela dépend ta vie. S'attacher à Dieu. On a besoin d'être attaché à Dieu. Si tu ne veux pas tomber, tu as besoin d'être attaché. Parfois, quand tu vas avoir quelque chose que tu n'as pas envie de perdre, tu vas connaître les nœuds, scout ou que sais-je, pour faire le nœud qui va faire que ça ne tombe pas. Et tu vas le serrer bien fort. Mais c'est pareil, si tu ne t'attaches pas au Seigneur avec tous les nœuds, si tu ne mets pas en œuvre des choses pour vraiment t'attacher à lui, dont la prière, le jeûne en font absolument partie. Les premiers chrétiens, ils jeûnaient tous deux fois par semaine. C'est une pratique commune. Lisez les Actes, vous voyez qu'ils jeûnaient. Pas juste un moment de leur vie. Pourquoi? Parce que le jeûne, ce n'est pas un jeûne comme certains peuvent le faire pour acquérir de la puissance, pour faire des miracles ou que sais-je. C'est l'humiliation, c'est comprendre qu'on est des êtres charnels, vendus au péché, et que tout dans ce monde nous nourrit et nous fortifie dans ce sens-là, et qu'on jeûne pour s'humilier, pour s'attacher à Dieu. Et oui, alors, il va nous donner sa puissance, mais la puissance de la bénédiction du salut, la puissance d'être rempli de son esprit, rempli de sa puissance, comme Jésus, qui après son baptême rempli du Saint-Esprit est parti pendant 40 jours de jeûne conduit par l'Esprit pour être renforcé dans le lieu secret de cette puissance du Saint-Esprit qui allait lui donner d'œuvrer dans le ministère et d'aller jusqu'à la croix pour sauver l'humanité entière. J'aimerais qu'on prenne ensemble 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous voyez, Jean, il a pu dire des choses que l'on pourrait peut-être parfois pas vraiment dire. Comme le fait que tout ce que vous demanderez en son nom, il vous l'accordera. Et c'est qu'il vivait une vie tellement pieuse. Il était tellement un enfant de Dieu qu'il se rendait compte de ce que ça voulait dire. Et il nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui sommes des êtres charnels vendus au péché, qui avons des réticences envers lui. N'importe qui, s'il est vrai, il se rend compte qu'il est pécheur et que ce péché amène la mort. Alors Dieu, non seulement il nous sauve de cette mort en Jésus-Christ, mais il nous appelle ses enfants. En théologie, lorsque on aborde la doctrine du salut, il y a une doctrine qui s'appelle l'adoption. Vous voyez, le fait d'être adopté par Dieu. On est des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Qui c'est qui peut dire, comme on a commencé cette série de prédications par Paul, qui dit « c'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi ». Qui c'est qui peut se dire « je le suis, enfant de Dieu ». Je le suis. Comme je l'ai déjà dit, le verbe « être » en hébreu, c'est le nom de Dieu. Il n'existe pas, si vous voulez. Qui peut dire « je suis un enfant de Dieu » C'est parce qu'il l'est. Et nous le sommes. Et j'aimerais pas prendre ces paroles pour vous dire que vous ne l'êtes pas, mais pour vous dire que c'est possible. Si cette parole, elle prenne notre cœur pour qu'on la mette en pratique, c'est pas pour qu'on se désobéisse et qu'on se détourne. C'est pour qu'on ait la vie, qu'on multiplie, qu'on soit béni. Alors tu l'es, cet enfant de Dieu. Alors pourquoi ne pas vivre comme si tu l'es? Pourquoi ne pas vivre par la foi, en vérité chaque jour, comme un enfant de Dieu, et non pas comme un enfant de ce siècle? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je pourrais passer des heures à commenter ces versets, alors on va les passer. Et on en parlera la prochaine fois, ce monde auquel on doit échapper, pour lequel on n'est absolument pas fait. S'il ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Saint, le véritable qui fait de nous des enfants du Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est pour ça qu'on est fait. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La vérité, c'est que celui qui connaît le Seigneur, il ne pêche pas. Parce que de la même manière que cette parole, elle n'est pas loin dans les airs, derrière la mer, dans le ciel, ou que sais-je, pour que tu ne la mettes pas en pratique, et que tu peux la mettre en pratique, et que c'est possible, eh bien Jésus, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et il peut le faire. Mais pour ça, tu as besoin de te laisser imprégner par ces paroles, qu'elles deviennent comme un feu, comme dans le cœur de Jérémie, comme dans le cœur des apôtres. Alors rien ni personne ne pourra te séparer de cet amour de Dieu, de cette parole de Dieu vivante, efficace dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu est efficace dans ta vie? Jésus, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Petits enfants, aussi vous saviez ô combien c'est une parole qui faisait pleurer mon cœur. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Là, vous avez tout le cœur de Dieu dans le cœur de l'apôtre. Et si vous voulez, c'est le cœur de mon message de ce matin. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise à croire que ce n'est pas possible de vivre cette vie. Que personne ne vous séduise parce que vous allez les regarder, parce qu'ils ne vont pas vivre la Bible, alors vous allez vous laisser séduire. Que vous ne vous laissiez pas séduire par votre idole intérieure. Que vous ne vous laissiez pas séduire par les idoles extérieures. Que vous ne vous laissiez pas séduire par la tiédeur. Que vous ne vous laissiez pas séduire par la paresse, par le sommeil, par quoi que ce soit. Par votre oubli de Dieu. Mettez en pratique. Donnez-vous les moyens et arrêtez de vous laisser séduire. Des fois, on peut se laisser séduire. On prend des résolutions avec Dieu. Et on peut se laisser séduire tellement facilement. Tout à coup, il y a une activité, quelque chose qui pourrait se passer. Ah tiens, alors, et on se laisse séduire. On est tellement vite séduit, tellement vite oublieux. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Venez devant la face du Père, une bonne fois pour toutes, un Dieu qui vous dit, ta main, je veux ta main. Je veux que tu la prennes, que tu te maries avec moi d'une manière irrévocable et que tu ne commettes jamais d'adultère. Prends ma main et ne te laisse plus jamais séduire, intérieurement, extérieurement, par quiconque. Si on va vivre des choses ensemble, on va s'aimer jusque dans la vie éternelle. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu le crois? C'est un verset que tu devrais te répéter, proclamer, jusqu'à qu'il devienne puissance de vie en toi. Que tu ne te laisses plus jamais séduire, et que tu crois, et que tu vives que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, et que quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Il a détruit les œuvres du diable, et il peut le faire en toi aujourd'hui, il veut le faire en toi aujourd'hui, et cette parole, elle est tout près de ton cœur, elle est toute vers ta bouche, pour que tu commences à l'ouvrir, et que Dieu la remplisse, et que Dieu te forme, et que Dieu te bâtisse, et que Dieu te cimente, et que Dieu te crépisse, et que Dieu te rende étincelant, et que Dieu fasse de toi une lumière pour ce monde de péché, qui croule de plus en plus sous le poids du péché, parce qu'il n'y a personne qui se lève vraiment pour marcher pour lui. Il y en a qui se lèvent, mais qui marchent encore pour eux-mêmes, pour une cause ou que sais-je, et Dieu, j'ai péché contre toi seul. L'amour de Dieu vienne brûler nos cœurs, frères et sœurs, et qu'on se lève décidé pour marcher pour lui, et que ces âmes qui chaque seconde partent en enfer puissent trouver le salut au travers de Jésus. Jésus en moi, Jésus en toi, Jésus en nous. Si on a besoin de Jésus pour vivre, combien la deuxième étape, c'est d'avoir besoin de Jésus en nous pour sauver toutes ces âmes qui partent. Il n'y a que des gens qui n'ont pas Jésus dans leur cœur qui peuvent être insensibles à toutes ces âmes qui partent en enfer. Encore une fois, c'est trop souvent notre cas, mon cas. On peut se laisser séduire par tout ce qui pourrait nous détourner des instruments de salut de Dieu. Ma prière, c'est que parce que l'on cherche sa face, parce qu'on apprend à le connaître, parce qu'on l'adore en esprit et en vérité, on va se laisser séduire par lui. On va être séduit, on va être attiré au désert pour être séduit par lui seul. Quiconque, verset 9, est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu peux te dire né de Dieu? Quand un enfant sort du ventre de sa mère, qu'aurait-il à faire à y retourner sinon à mourir? Frères et sœurs, que personne ne nous séduise. On est appelé à être né de Dieu. On a un Jésus qui a détruit les œuvres du diable. Répète-toi ce verset, ces trois mots, né de Dieu, né de Dieu, né de Dieu, né de Dieu. Je suis né de Dieu. On va parler de la foi maintenant. Ne dis pas, je vais être né de Dieu. Je serai né de Dieu. Je suis né de Dieu. Le Fils de l'homme a paru, passé, composé. C'est des choses accomplies par le Seigneur dont tu dois te saisir par la foi. Arrête de vouloir vivre des choses par toi-même. Par nous-mêmes, on est des êtres déchus. On est incapables de rien. On a besoin de la puissance de Jésus. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance de Dieu. Parfois, on a énormément de combats chrétiens sincères qui veulent marcher avec Dieu parce qu'on compte trop sur nous-mêmes. On croit que c'est par nous-mêmes qu'on doit y arriver. Non, oui, tout est grâce. C'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et si on prend ce verset pour rester sur nos transats, c'est qu'on ne l'a pas compris. Ceux qui l'ont compris, c'est ceux qui cherchent vraiment la face de Dieu, qui comprennent qu'ils veulent être des enfants irréprochables dans ce monde corrompu, voyez-vous. Alors il cherche la face de Dieu. Et Dieu, parce qu'il le cherche, c'est lui qui donne son esprit. Comme le dit Romains 8, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas comment prier. De la même manière, on ne sait pas comment vivre. On ne sait pas comment appréhender l'avenir. Eh bien, on a besoin de l'Esprit Saint de Dieu, de sa parole, pour que ce soit elle, que ce soit lui qui fasse son œuvre en nous et qui nous recrée, qu'on soit vraiment cet ouvrage de Dieu. Mais pour ça, sans la parole de Dieu, sans du temps dans la prière, on est voué à la perdition, on est voué à l'échec. En tout cas, à ne pas vivre comme des enfants de Dieu. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, c'est qu'un grand nombre soit sauvé comme au travers du feu. Tous ces gens qui n'auront pas construit, vous voyez. Vous connaissez ces paroles de Paul aux Corinthiens. Je vous laisserai les méditer. Mais qui souhaiterait être sauvé comme au travers du feu? Comprends que ta vocation, c'est de bâtir. Et bâtir avec de l'or. Pourquoi tu voudrais autre chose? Pourquoi? Quelle que soit ta vocation dans ce monde, je ne parle pas qu'à des missionnaires. Pourquoi tu voudrais bâtir sur de la paille ou encore sur du chaume? Pourquoi tu ne veux pas bâtir avec des matériaux précieux? Ces pierres que lorsque tu lis l'Apocalypse, tu revois dans la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que ce sont ces pierres, ces chrysolites, etc.? C'est tout ce que tu auras bâti qui va briller dans la gloire de Dieu. Alors non, ce n'est pas par toi-même, c'est par la parole de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais ça, si tu veux le vivre, si tu veux le vivre, pour être de ceux qui seront proches du Seigneur. Paul parle clairement des récompenses. Si tu es sauvé comme au travers du feu, tu n'auras pas de récompense. On peut se dire, oh écoute, moi, de toute façon, mais on a, oh, qu'est-ce que ça veut dire les récompenses? On n'a aucune conscience de l'éternité. On n'a aucune conscience de la majesté divine, du trône de Dieu. On n'a aucune conscience du temps si court que représentent nos vies. C'est le psalmiste qui dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Mais la sagesse dans la Bible, c'est une sagesse pratique. Ce n'est pas une sagesse grecque. C'est une révélation de Dieu pour marcher ici-bas selon lui. Oh, combien on en a besoin. On a besoin de cette vision de l'éternité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas nous endormir du sommeil de la mort, pour marcher comme lui-même a marché. On est appelé à construire. Vous savez, l'éternité, j'en parlerai la prochaine fois. On a besoin d'être réveillé de ce qu'est l'éternité. On a besoin d'être réveillé de ce que c'est le ciel, de ce que c'est la gloire. Alors tout s'évanouit, vous savez. Alors ça devient absolument clair qu'on est appelé à bâtir avec les matériaux les plus précieux et qu'on veut déjà briller ici-bas et qu'on n'en a rien à faire de ce monde, de la chair. On veut déjà être pur comme lui-même est pur jusqu'au jour où on sera parfaitement semblable à lui quand il viendra nous chercher. Notre vie, elle est déjà dirigée vers cette Jérusalem céleste. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Naissons de Dieu. Grandissons en Dieu. Bâtissons en enfant de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Comment aimer vraiment sans l'amour de Jésus? On pourrait en parler. C'est à nouveau impossible. On est des êtres centrés sur nous-mêmes. On peut avoir une apparence de piété, une apparence d'amour, de rendre des services, mais l'amour dont Dieu parle, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour agapé. C'est lui à nouveau qui doit le produire en nous. Et ça, ça va se chercher dans le lieu secret, un lieu souvent déserté par l'Église, et pourtant qui devrait être chéri. C'est là où on devrait être séduit. C'est là où on devrait devenir ces fous de Dieu, ces fous de Jésus. On ne regarderait plus rien à nous, plus rien au monde, mais qu'à Jésus. Et qu'alors on serait transformé en sa même image, qu'on brillerait comme le soleil, frères et sœurs, dans sa force en plus, dans sa force. Vous pouvez tourner la page, lire encore ces versets, 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oh, je pleurais sur ces versets. Pour moi-même, frères et sœurs, si je suis né de Dieu, si je me garde moi-même, si je vis vraiment Christ, le malin ne me touchera pas. Ma chair ne me gouvernera plus jamais. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Rentre dans les parvis, rentre dans le saint, rentre dans le saint des saints, dans le sanctuaire de Dieu et laisse ses paroles te consumer. Et vis-les chaque matin, chaque jour. Tu ne seras pas séduit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que tu le sais, est-ce que tu le vis, que tu es de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, alors écoutez, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Ce qui a engendré cette prédication d'aujourd'hui, c'est des larmes. Sur ce verset en particulier. Premièrement, que personne ne vous séduise. Que je ne me laisse pas, moi, Olivier, séduire. Si je suis né de Dieu, le malin, il ne me touche pas. J'ignore plus Dieu. Je vis avec lui. Et le Saint-Esprit de Dieu qui disait, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, c'est rien d'autre. C'est lui ma vie. J'ai rien d'autre à faire que d'avoir Jésus. C'est ma vie, d'être dans le véritable. Petits enfants, finit-il. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est comme ça que Jean finit sa lettre. Que Dieu, dans le lieu secret, vous révèle ces versets et vous donne, vous séduise comme jamais par ces versets. Que vous croyez que chacun de nous peut le vivre. Parce que Dieu n'est pas menteur, mais au contraire, il est fidèle, il est puissant. Mais pas pour des paresseux qui mettent la main dans le plat sans la ramener à la bouche. Fais l'effort de la ramener à la bouche et tu goûteras ô combien le Seigneur est bon. Son commandement, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Voyez, bien-aimé, il faut y croire. Il faut avoir la foi. Il faut prier. Il faut se laisser briser. Il faut marcher. Il faut avancer et on va tous faire l'expérience que c'est possible. De vivre une vie remplie du Saint-Esprit tout au long du jour, tout au long d'une vie. Les grands témoins de la foi qui nous ont précédés l'ont prouvé, mais il faut que tu laisses Dieu, tu te laisses même toi-même te prouver intérieurement, entre toi et Dieu, que c'est possible, que c'est possible. Ne laisse ni le diable, ni la chair, ni rien, ni personne te séduire, te mentir. Cette vie dont je parle, c'est la vérité. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est possible et on est fait pour la vivre. Et on est même fait pour rien d'autre que cette demeure, que cette plénitude de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais lire quelques versets par rapport à ça. Il y a une seule chose. On a absolument besoin de Jésus. On a absolument besoin de la présence de Jésus. Par nous-mêmes, c'est tout simplement impossible. La Bible est claire, les apôtres l'ont dit. Mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Il a même dit, il y en a qui vont s'efforcer à rentrer, ils ne pourront pas. Hein, Matthieu dit que le chemin est spacieux, la porte est large qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui le prennent. Et puis resserrer celui qui mène à la vie, mais il y en a peu qui le trouvent. Mais même Luc va nous dire celui qui le trouve. Il y en a qui vont s'efforcer, ils n'arriveront pas à en rentrer. Mais qui peut être sauvé, Seigneur? Qui peut être sauvé? Peut-être qu'il y en a quand ils écoutent. Tout ce qui est dit, ils vont, mais alors qui c'est qui est sauvé? Au lieu de te laisser séduire, de regarder, puis de commencer à faire des statistiques, où qui es-tu, toi, qui juges? Il y en a un seul qui juge, c'est le grand législateur, et c'est Dieu. Laisse-toi juger par la parole. Moi, je n'aurai jamais dans le cœur de juger mon prochain, de juger quelqu'un. Ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu. Pour qu'on se laisse tous ensemble juger par cette parole. Pour ne pas être condamné avec le monde, mais pour être sauvé. Pour vivre l'évangile de Christ. Alors si on se dit, oui, mais alors, qui sait ? Arrêtons avec ces vains raisonnements. Soyons entre nous et la parole. Alors laissons cette parole devenir chère en nous. Et alors on comprendra. Pour l'homme, c'est impossible, c'est clair. Mais pour Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et pour ça, il faut prier. Pour ça, il faut prier. On a besoin de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de péché en lui, on vient de lire. Il n'y a pas en lui de péché. Hébreux 4,15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » On a besoin de Jésus. Jésus, il a besoin de se révéler à toi comme jamais comme une personne. Il a besoin comme jamais de se révéler à toi comme une personne. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit qui est une personne dont tu as vraiment besoin. Jésus, ça ne doit pas être une idée vague. Le Saint-Esprit non plus. Ça doit devenir quelque chose dont tu as absolument besoin. Et tu veux savoir, Jésus, il n'a jamais péché. Alors pourquoi tu pécherais ? Jésus, je veux te connaître. Comme le dit l'apôtre Paul, Philippiens 3, 7 à 15. Toi, la puissance de ta résurrection, la communion à tes souffrances. Je ne veux pas regarder en arrière, je veux voir tout comme de la boue, comme des déchets, au prix du gain suréminent qu'est cette connaissance. Jésus, je veux te connaître. Et en toi, il n'y a pas de péché. En toi, il n'y a que pureté. En toi, il n'y a que beauté. En toi, il n'y a que le ciel. En toi, il n'y a que l'amour. En toi, il n'y a que la joie. En toi, il n'y a que la vie. En toi, il n'y a que la paix. En toi, il n'y a que la patience. En toi, il n'y a que la maîtrise de soi. On souffre d'un manque de Jésus, d'un manque de révélation de Jésus. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais par Jésus, il y a la victoire. Il y a le règne. Il y a la gloire. Il y a la majesté, il y a l'honneur, la puissance, la force, la vertu. Il y a tous ces mots, comme nous prêchait notre frère Julien il y a quelque temps, dans le premier chapitre des Éphésiens, ces mots qui paraissent étrangers à celui qui n'est pas régénéré. Mais quant à Jésus, ces mots sont clairs. L'intelligence que Paul a du mystère caché depuis des siècles, elle devient claire. Oui, tu as connu le véritable. Alors tu es dans le véritable, tu demeures dans le véritable, tu marches dans le véritable, tu vis et tu vivras à jamais dans ce véritable. Dès ici-bas, mais surtout encore pour l'éternité. Et c'est pour ça que tu es fait et pour rien d'autre. Quand le Seigneur va revenir dans sa gloire pour détruire cette terre, ô combien, comme l'a dit Jésus, il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Les gens se diront, mais j'étais fou! Et le Seigneur leur dira, mais la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui te juge. Oui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur béni éternellement. Il y aura tout dans la parole de Dieu pour faire que toute bouche soit fermée. Alors laissons ce salut de Jésus, la puissance de sa mort, la puissance de la croix, descendre au fond de nos vies. Pour produire une conviction de péché et une vraie repentance. Et laissons sa résurrection nous donner d'être doctrinalement, mais physiquement, si j'ose le dire, sauvés, justifiés par la foi en sa résurrection, frères et sœurs. Tu es sauvé par la foi seul, mais Dieu te veut vivre dans la plénitude de sa gloire, dans la plénitude de sa vie. Et c'est possible, par Jésus, en Jésus. Pour Jésus, c'est pour ça que tu es fait, pour l'adorer. Tu adoreras l'agneau au siècle des siècles. Parce qu'enfin, on ne sera plus des fous. On sera vraiment des gens éclairés, qui verront, qui auront la clarté à leurs yeux, pour adorer Jésus, pour comprendre que ce sacrifice est adorable au siècle des siècles, et non méprisable pour quelques années. C'est possible, mais que grâce à Jésus, par Jésus. Vous savez, en plus, ce Jésus, il intercède pour nous. Il est à la droite du trône de la majesté divine et il intercède pour nous. Et par son Saint-Esprit, il se forme en nous. On a tout pour réussir. Le diable nous ment. Sans cesse, il nous ment. On se ment à nous-mêmes. Dieu est Père, il est amour, il est vrai. C'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence qu'on n'arrive pas à voir, à comprendre, à croire que cette parole elle est vraiment tout près de nous pour qu'on la mette en pratique. C'est possible. Répète-le-toi jusqu'à ce que tes chaînes tombent et que comme Lazare, tu sortes. Voyez Jésus, il a dit à ses sœurs qui croyaient qu'il parlait de la résurrection au dernier jour. Il a dit non, il va vraiment sortir de sa tombe. On est pareil que ces femmes, vous voyez, qui aimaient Jésus. On croit que c'est dans le ciel. Jésus dit non, il peut sortir Lazare. C'est possible. Il sent déjà, mais c'est possible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu pourras vivre libre ? Tes chaînes, elles vont pouvoir tomber ? Tu vas voir ton vieil homme comme une chair morte à la croix ? Parce que la révélation va venir dans ton cœur. On peut vivre des expériences avec Dieu, mais on a besoin, non pas par nos sentiments, mais par notre réflexion, notre pensée. On a besoin d'être plus rationnel aujourd'hui pour marcher dans plus de puissance. De comprendre quel est vraiment le salut de Dieu et la marche avec Dieu. Et d'avoir une vraie foi capable de nous sauver et de nous faire marcher dans ce salut. On peut vivre des visions, des expériences de salut, mais il y a un moment où il faut comprendre que Christ est mort pour nous et laisser ce mystère de la croix. S'il a lavé nos cœurs, de planter ce cœur de chair, de planter ce cœur pourri à la croix et qu'il y reste et que tu le vois comme de la chair morte. Sinon, on vit des expériences et on continue à vivre dans le péché. Il faut que la puissance de la croix, elle fasse son œuvre en nous. Il faut que ce si puissant salut, il nous sauve vraiment de notre péché. Il nous sauve du diable. Que ça soit cloué à la croix et qu'on en soit désidentifié et qu'on le voit de l'extérieur. Une chair morte, sans vie. J'ai été identifié avec lui dans sa mort. Et alors, par la foi, je vis pour lui dans sa résurrection. C'est possible que rien ni personne ne vous dise autre chose. Croire que ce n'est pas possible ne serait rien d'autre qu'une insulte au Dieu vivant. Ne serait rien d'autre que de fouler aux pieds le sacrifice du Fils de Dieu et d'outrager l'Esprit de la grâce. Il n'a pas fait ça pour que ce soit un salut à bon marché. Il intercède pour nous. Il a tout donné. Il fait tout encore aujourd'hui. C'est uniquement parce qu'on est trompé par nos propres raisonnements et qu'on ne marche pas dans la foi, dans ce tout accompli, qu'on est dans la mort encore. Plus vous allez vous approcher de Dieu, plus une personne s'approche de Dieu, plus elle voit ô combien sa nature de péché est plus grande. Ô combien elle voit que Dieu est plus grand, mais elle voit encore ses couches et ses couches et ses couches de rébellion. Elle ne se rend pas compte comme elle était charnelle. Ça lui paraît une folie. Il faut avoir cette révélation, ce déclic-là, ici-bas. Sinon, on va se le prendre en pleine figure quand le filet va tomber. Il faut l'avoir maintenant. Celui qui s'approche de Dieu, eh bien, frères et sœurs, il se rend compte de plus en plus ô combien il est pécheur. Mais pas pour tomber, pas pour s'accabler, pour se relever, pour briller. Vous voyez ? Pour se relever, pour briller. Jésus est notre seule vie, notre seul espoir, notre seul chemin, notre seul sauveur. Et on a besoin d'être rempli de sa présence pour que notre volonté soit clairement aiguisée. L'œuvre du salut se fasse réellement en nous, pour que notre péché soit cloué, pour que la vie nouvelle puisse partir. On a besoin de lui. Alors invoquez-le. Priez, 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 priez et priez encore. Et celui qui va persévérer, il ne va pas être déçu. Mais la puissance du Saint-Esprit, la vie de Jésus-Christ va venir sur lui, va transformer ses pensées, renouveler l'esprit de son intelligence. Et pour ça, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Parole de Dieu et prière vont ensemble. Vont ensemble. Et plus tu vas le vivre, plus tu vas la lire, plus tu vas être régénéré, plus tu vas être renouvelé, plus tu vas être fortifié, plus Dieu va construire en toi, plus il va mettre le vouloir, plus il va mettre le faire, et plus tu vas être libre et tu seras appelé un ami de Jésus. Tu seras parmi ses frères. Et tu brilleras avec lui pour l'éternité. Tu l'adoreras parce que tu sauras que sans lui, tu n'aurais jamais rien pu faire, accomplir ou être. C'est sa grâce seule qui nous sauve et qui nous sanctifie. Vous savez, soit on peut être tenté dans notre marche, soit, et c'est un des plus grands mal, on peut oublier. On peut oublier Dieu. Et marcher un temps, soit plusieurs jours, soit quelques temps, dans l'ignorance. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez, pour que vous ne soyez pas surpris. Mais le problème, frères et sœurs, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'est pas fervent. Soyez fervent, nous disait Paul. On n'est pas fervent. J'aimerais, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des autres points du combat et encore quelques mots sur la foi. J'aimerais en tout cas terminer par ça. Vous dire ces choses, on a besoin d'être fervent. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a absolument besoin de comprendre nos dépendances à Dieu. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, il faut que tu le comprennes du plus profond de toi-même. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment tu vas pouvoir faire? On n'y arrivera jamais. On va même se décourager. Mais si on prie, prier pourquoi? Pour être rempli du Saint-Esprit et de la parole de Christ. On a besoin d'être fervent. On a besoin d'être fervent. Un tiède qui connaît toute la parole de Dieu, il peut vivre déchu de Christ. N'importe quel petit enfant, s'il vient à Dieu, Dieu peut le bénir de cette véritable bénédiction la plus belle et lui donner de multiplier, de grandir. Mais on a besoin d'être fervent et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est capital. C'est capital. Et ça, c'est chaque matin. C'est chaque jour. De la même manière que le soleil se lève, tu vois le soleil se lever, eh bien, tu as besoin de laisser Jésus se lever. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque aujourd'hui est à prendre séparément. Demain s'inquiétera de lui-même. Chaque aujourd'hui, comme la nature se réveille, tu es appelé à te réveiller. Celui, je suis peut-être strict, mais je sais que c'est la vérité, celui qui n'expérimente pas chaque matin un réveil personnel, va finir tôt ou tard, s'il est sincère, à plier le genou et dire « Je ne m'étais encore attiédi. Je n'étais pas clair. Je me suis laissé séduire. J'ai été confus. Je voulais être un homme, je suis redevenu un gosse. » Chaque homme, chaque femme va expérimenter ça s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être fervent et rempli. Est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste aurait pu oublier sa mission, oublier Jésus, partir de son désert pour aller à Jérusalem pour manger une glace? Non, Jean-Baptiste, il n'y avait pas moyen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Luc 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Jean-Baptiste, il a été jusqu'au bout. Et il n'aurait pas dévié parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même, il a dû, lors de son baptême, être rempli du Saint-Esprit. Et vous lirez ces passages dans les évangiles. Le ciel qui s'ouvre et le Saint-Esprit qui descend sur lui. Alors, Luc 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Les apôtres, acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef, peuple et anciens d'Israël. On dit, mais alors comment Pierre, il pouvait avec Jean avoir la joie d'avoir été fouetté pour le nom du Seigneur? Et comment il pouvait dire, moi j'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Et comment ils étaient remplis du Saint-Esprit? Parce que chaque jour ils priaient, inlassablement. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tous ces hommes de réveil, n'importe quel homme, ne les idolâtrons pas. C'était des gens de la même nature que nous. Il y avait une seule chose. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qu'on a aujourd'hui. C'est le même esprit. Simplement, il faut briser notre esprit de paresse. Et il faut aller au-devant de lui. Il faut croire. Il faut aller au-devant de lui en ayant la foi pour sauver nos âmes. les martyrs aussi. Étienne, premier martyr, on lit dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Alors quand on lui jetait des pierres, il suppliait Dieu de pardonner ses bourreaux. Le but de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous faire voir clair. Mais pour qu'on vive cette vie de Jésus, on a besoin de prier pour être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être fervent. Tenez ça dans vos cœurs. Sans la ferveur, sans la puissance de l'Esprit, on ne va pas tenir longtemps. On est comme une voiture sans essence. Au bout d'un moment, elle va obligatoirement s'arrêter. Alors dites-vous que chaque matin, on doit aller à la pompe. Et si on voit qu'on commence à pécloter, je puis dire, allons tout de suite à la pompe à essence. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Moi, ça m'arrive. Dans la journée où tout à coup, je peux voir par une irritation en moi, par quelque chose. Alors il faut avoir, entendre la voix du bon berger. Va dans ta chambre, dispose-toi et laisse-moi tout à nouveau te remplir de mon Saint-Esprit. On a besoin, besoin et absolument besoin de ferveur et d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez dans Actes 9, verset 17, « Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. » On a besoin de retrouver la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà les choses avec lesquelles je veux vous laisser. On a besoin de recouvrir la vue et d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de ferveur. Voilà, on peut courber nos têtes devant le Seigneur et au-delà de nos belles prières, bien-aimés, est-ce que ce Dieu vivant, on le veut? Est-ce qu'on veut se donner les moyens de vivre chaque jour, chaque aujourd'hui, qui ressemblera jamais au jour passé, mais qui devrait lui ressembler par le fait qu'il nous voit tous à genoux, pour être rempli de la parole du Messie et rempli de son Saint-Esprit, pour être rempli de foi, pour marcher victorieusement, parce que c'est possible, pour mettre cette parole qui veut nous donner la bénédiction des bénédictions, la vie éternelle, pour la mettre en pratique et pour avoir la vie, pour être libéré et pour se réjouir de l'allégresse du salut, comme le disait David dans ce psaume 13. Ce Dieu vivant, ce fait d'être véritablement accroché jusqu'au bout à la jambe du Messie, ses audiences avec le roi, cette vie constante avec Jésus qui est la seule vie, tout cela, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux? Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Père Céleste, je te prie de nous encourager à croire que c'est possible. Absolument possible, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et que ton salut est parfait. Et je te prie de faire grandir notre foi, comme le disaient les apôtres à Jésus. Augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi dans ta parole. Augmente en nous ce désir de prendre des décisions, de nous laisser séduire par rien d'autre que par toi. Augmente en nous le désir et la soif de passer du temps avec toi, de passer du temps dans la parole, pour ne plus nous laisser surprendre à être endormis, alors que nous prions personnellement ou même ensemble. Que nous n'ayons plus à avoir quelqu'un rempli de l'Esprit à nos côtés qui nous réveille, mais que nous entendions nous-mêmes ta parole, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Cela puisse être notre expérience matinale. Ô Seigneur, que nous ayons plus faim du pain de la vie éternelle que du pain de la terre. Et que si, comme les apôtres ne comprenaient pas que Jésus ne mangeait pas après avoir parlé à la Samaritaine, nous puissions leur dire aussi que nous avons une autre nourriture, c'est celle de faire la volonté de Dieu. Parce que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux, et qu'il est temps de se réveiller, de racheter le temps. Seigneur, donne-nous d'être exigeants avec nous-mêmes, pour être miséricordieux avec les autres de ton amour. Seigneur, on te crie, on veut t'invoquer, on veut s'humilier devant toi. Donne à chacun de nous de mettre en pratique tout ce que tu nous appelles à mettre en pratique pour que nous puissions être des lumières, être des gens remplis de Saint-Esprit, remplis de foi, victorieux, des gens que le malin ne touche pas, des gens qui ont le Jésus qui a détruit les œuvres du diable dans leur vie, des authentiques chrétiens qui sont heureux, qui vivent libres, qui se rendent compte quel amour extraordinaire tu as répandu sur nous en nous réconciliant avec toi, en nous appelant enfants de Dieu. On veut être ses enfants et nous le sommes. Augmente-nous la foi, augmente-nous la ferveur dont nous avons besoin, Seigneur. Augmente nos temps de prière, augmente notre soif de la parole, Seigneur. Et forme ta parole en nous, construis l'ouvrage de chacun de nos cœurs. Forme Christ dans chacune de nos vies. Ô Seigneur, fais-nous passer par les douleurs de l'enfantement. C'est pour quelque chose de merveilleux. C'est pour quelque chose de glorieux. Fais-nous grâce, Seigneur. Produis en nous ce vouloir et ce faire. Et donne-nous de ne pas être ces oublieux, mais produis-le chaque matin. Donne-nous de prendre des résolutions. Faites des vœux à l'Éternel et accomplissez-les. Que nous puissions cesser d'être légers et que nous puissions être fidèles. Ainsi, nous n'aurons aucune crainte que ce jour nous surprenne comme un voleur, parce que nous veillerons, nous nous conduirons comme des sages, nous aurons su comment compter nos jours, nous aurons réfléchi au moment où il fallait réfléchir, et pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est le jour pour revivre comme jamais avec notre Seigneur, qui a tout donné pour nous. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il fasse vraiment luire sa face sur nous jour après jour, qu'il donne la clarté à nos yeux, pour qu'on ne s'endorme pas du sommeil de la mort, mais pour qu'on vive à jamais.